Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, restez à l'écoute de Canal Académie pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Une nouvelle émission, une fois n'est pas coutume, que j'ai souhaité inscrire quelque peu dans les marges de l'histoire universitaire, de l'histoire académique. En effet, nous allons parler aujourd'hui de bande dessinée. Les deux domaines, l'histoire et la bande dessinée, sont-ils incompatibles ? A priori, oui, très souvent ou trop souvent, les clichés historiques tout droit hérités du XIXe siècle y font florès. Procès des Templiers, église obscurantiste, massacre d'innocents, les exemples de raccourcis intellectuels fondés le plus souvent sur une méconnaissance totale des réalités de l'histoire sont multiples. Cela dit, il existe des exceptions et une de ces exceptions s'appelle Patrice Pellerin. Avec Patrice Pellerin, nous sommes effectivement dans un tout autre domaine, élève du dessinateur Pierre Joubert, collaborateur du scénariste Jean-Michel Charlier. Patrice Pellerin nous offre depuis plusieurs années déjà des planches représentant le XVIIIe siècle, l'époque, mais aussi et surtout son univers maritime. Planches admirables, criantes de vérité et intelligemment construites. De Pellerin, le scénariste de la fameuse série Bogdani, écrivait « J'ai eu la chance de rencontrer Patrice Pellerin. Illustrateur jusqu'alors, il n'avait jamais abordé la bande dessinée. La qualité exceptionnelle de ses dessins, son perfectionnisme et une confiance professionnelle lui faisaient pousser le souci du détail exact jusqu'à la minutie, sans parler de sa gentillesse. » Alors, la bande dessinée peut-elle se réconcilier avec le monde de l'histoire ? Comment travaille un scénariste et un dessinateur quand ils s'engagent dans les couloirs de l'histoire de France ou d'ailleurs ? C'est ce que nous allons découvrir avec l'auteur de L'Épervier, le dessinateur et scénariste Patrice Pellerin. Patrice Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes donc scénariste, vous êtes donc dessinateur. Parfois, les deux tâches sont séparées, elles sont réunies dans votre œuvre. En tous les cas, dans la dernière œuvre, votre dernière grande œuvre qui vous donne un succès certain, il s'agit de L'Épervier. Avant de parler de L'Épervier, vous avez travaillé longtemps, nous allons y revenir, avec Charlier, en tous les cas, sur deux tomes, je crois, de Barbe Rouge.
Oui. En effet, oui.
Voilà, une série qui a été complétée par d'autres séries. Vous avez fait Les Aigles décapités, vous avez travaillé en tant qu'historien avec des historiens dans la fameuse série illustrée La vie privée des hommes qui était dirigée par Régine Pernoud, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez travaillé avec l'historien Philippe Brochard. Alors, votre grand succès, il s'agit de L'Épervier. Il y a deux cycles, un premier cycle qui comprend six tomes, donc le premier cycle est terminé. Il a été coupé en quelque sorte par un hors-série, un hors-cycle qui s'appelle L'Épervier, archives secrètes, qui revient sur l'histoire du héros. Et vous venez de débuter un nouveau cycle sur lequel nous allons longuement revenir, le tome 7 qui s'intitule La Mission. Alors avant d'en venir à ce monde de la bande dessinée, peut-être quelques mots sur votre parcours, Patrice Pellerin. Comment devient-on ? Quel est le parcours pour devenir dessinateur et scénariste de bande dessinée ?
Je ne suis pas sûr d'avoir un parcours tout à fait conventionnel, parce que c'est vrai que la plupart de mes collègues ont fait de la bande dessinée parce qu'ils ne s'intéressaient pas à ce qu'ils apprenaient en classe. Donc, ils faisaient des petits dessins en marge de leur cahier. Je n'ai jamais fait de petits dessins en marge de mes cahiers. Donc, j'étais très scolaire. Donc, voilà, j'écoutais mes profs. J'adorais les cours d'histoire. Là, je pense que le début, ça, de mon goût pour l'histoire, j'ai eu de la chance d'avoir de bons profs d'histoire. J'ai eu des mauvais profs d'allemand, mais j'ai eu de très bons profs d'histoire. Et je lisais énormément quand j'étais enfant.
Votre premier ouvrage d'histoire, vous en souvenez ?
Oh là non, ça je m'en souviens pas, mais c'était des romans historiques. De toute façon, je lisais beaucoup de romans historiques. Et puis, mon père avait beaucoup de livres dans sa bibliothèque. Donc, il avait à la fois des livres d'art et des livres d'histoire.
Votre père était préfet, c'est bien ça ?
Oui, il a d'abord été administrateur de la France Outre-mer. Donc, c'est pour ça que j'ai vécu un peu à Madagascar. Après, on est revenu en France. Et il a été dans le corps préfectoral. Donc, il a suivi un peu le cursus. On a commencé comme directeur de cabinet, sous-préfet, préfet. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on bougeait beaucoup. Et à chaque fois, le goût de l'histoire, c'était aussi que tous les week-ends, quasiment, quand on pouvait, on allait visiter un lieu historique, on allait dans un musée avec mes frères, j'avais quatre frères. Et donc, je pense que le goût de l'histoire est venu aussi de ça, d'aller dans des endroits où on marchait des gens il y a plusieurs siècles, quoi. Donc ça, j'ai fait la même chose avec mes enfants, je les ai amenés dans des lieux historiques. Ils ont aussi le goût de l'histoire. C'est un goût qu'on peut former, je pense. de manière tout à fait simple, en fait. Hein, ça, il faut un peu de temps, peut-être. Donc, j'avais aussi le goût du dessin, c'est-à-dire que pendant des années, je n'ai fait que reproduire.
Vous avez commencé à dessiner à quel âge ?
Comme tous les gamins. Pas plus tôt. Comme tous les gamins, la seule chose, c'est que moi, j'ai continué. Les auteurs de BD, on a continué. Voilà. Nous, on a continué à dessiner au moment où les autres s'arrêtent. Mais moi, je n'inventais pas. Enfin, j'ai commencé vraiment... J'inventais quand j'étais gamin, mais après, à 8, 9, 10 ans, je recopiais des tableaux de la Renaissance, des peintres classiques. J'étais admis quand j'avais... J'avais quel âge ? J'avais 9 ans. J'étais admis aux Beaux-Arts à Avignon, et j'y allais tous les jeudis, en fait, et je faisais des dessins d'après des plats, donc j'ai appris à former mon œil comme ça. Donc j'ai appris à dessiner comme on dessinait autrefois, qu'on apprenait à dessiner autrefois, quoi.
Est-ce que vous avez eu un cursus particulier ? Est-ce que vous avez passé le bac et après vous êtes dirigé vers une école artistique ?
Oui, c'est-à-dire moi j'ai passé un bac littéraire, j'ai fait de allemand, latin, grec. Donc voilà, c'était vraiment les littératures très très classiques.
Une formation très classique.
Très classique, hein. Donc j'ai un bac littéraire et j'adorais toujours l'histoire. Et c'est vrai qu'après le bac, j'avais le choix, j'avais éventuellement le droit pour aller dans une carrière administrative comme mon père, ou l'histoire, puisqu'il m'intéressait beaucoup. Et c'est à la limite mes parents qui m'ont poussé un peu à me présenter au concours d'entrée aux arts appliqués à Reims, puisqu'à l'époque on habitait Sedan. Et j'étais admis directement en troisième année, sur présentation de mon dossier. Ce qui, là, mon père m'a dit, écoute, t'as sûrement quelque chose, il faut que tu continues, quoi. Et j'ai fait une année d'art appliqué à Reims. Je devais être dans un atelier de bande dessinée, mais j'étais le seul élève. Et j'étais en fait dans un atelier de dessin animé. Donc je travaillais j'aidais mes copains qui faisaient du dessin animé, mais moi tout seul, je travaillais dans mon coin. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de travailler tout seul. Et ce qui fait qu'après cette année d'art appliqué, je suis allé faire mon service militaire pour en être débarrassé. Et après, je suis resté un an et demi chez moi. Alors là, on était à Guingamp cette fois. Et j'ai travaillé tout seul. Tous les matins, je me levais comme si j'allais dans une école et je travaillais jusqu'au soir. Et j'ai fait un dossier que je suis allé à montrer à des éditeurs. C'est comme ça que j'ai travaillé. Ça s'est fait très simplement, en fait.
J'allais dire, ce qu'il y a d'étonnant dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas connu, si vous me permettez l'expression, de vache maigre. Vous avez tout de suite rencontré les personnes qu'il fallait. Je le disais en introduction, vous avez très vite rencontré un grand dessinateur, Pierre Joubert. Pierre Joubert qui, tout le monde connaît ses illustrations des signes de piste. Quel est le souvenir que vous gardez de ce premier contact avec Pierre Joubert?
Moi, ce qui était extraordinaire, c'est que mon père était scout, donc il était fan de Pierre Joubert, qui est de dessin scout, et moi, je n'étais pas scout. Par contre, j'adorais les signes de piste historiques. Le goût de l'histoire vient également de Pierre Joubert et de ses reconstitutions historiques. Donc, quand j'avais 9-10 ans, j'ai recopié des dessins de signes de piste. Je les agrandissais au carreau, je les reproduisais, et j'ai eu plus tard la chance de confronter mes reproductions à ses originaux. Et c'était assez extraordinaire. Il était tout étonné de voir ça. Et donc, moi, pendant des années, j'ai recopié des dessins de Pierre Joubert, et un jour, j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai eu son adresse par hasard. Je suis allé lui montrer mes dessins, mais vraiment un peu, c'est vraiment le hasard, hein. Et il m'a accueilli de manière absolument adorable. À l'époque, je voulais vraiment faire de la bande dessinée. Mais lui n'était pas du tout dessinateur de BD, c'était un illustrateur. Il n'a jamais fait de bande dessinée. Et il m'a prêté, comme exemple, une vingtaine d'originaux de signes de piste pour me donner l'exemple de ce qu'il fallait faire en illustration. Et je suis rentré chez moi, donc à l'époque j'habitais Guingamp, avec une vingtaine d'originaux de Joubert sous le bras. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas donné mon adresse, ni mon numéro de téléphone. Je suis parti presque comme un voleur de chez lui. Mais voilà, il faisait confiance aux gens. Et je suis revenu un mois après, j'avais fait des exercices d'après ses dessins, et il m'a trouvé tout de suite du travail. Au bout de deux coups de téléphone, j'ai eu du travail chez Signe de Piste et du travail chez Hachette, où pour faire la vie privée des hommes.
Il y a une véritable discipline du dessinateur, c'est frappant à vous écouter.
Le dessin réaliste, ça s'apprend, c'est ce que j'ai vu en fait quand... Moi, j'ai fait mes gammes pendant que j'étais enfant, j'ai recopié, le nombre de fois j'ai recopié des bras, des mains, des jambes, dessiné des têtes, je prenais du Michel-Ange, du Raphaël, ou des auteurs de BD, n'importe quoi, je faisais mes gammes. Et quand j'étais chez Pierre Joubert, parce qu'il m'a trouvé du travail, mais j'habitais en Bretagne, c'était loin, et il m'a proposé de m'héberger provisoirement dans sa maison à Meudon. Et en fait, provisoirement, je suis resté presque 10 ans chez lui. J'étais son 8e enfant, quasiment. J'ai eu la chance de voir travailler un bonhomme comme ça. C'est-à-dire, tous les matins, il se levait, il allait dessiner, et il se couchait à minuit, tous les jours. C'était un vrai travail. Le dessin, c'est... Nous, en bande dessinée, on est des professionnels, quoi. On ne fait pas du dessin. On ne peut pas faire du dessin comme ça sur un coin de table une fois de temps en temps, quoi. On n'attend pas l'inspiration vaine. Il faut travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le dessin réaliste, le dessin historique demande une énorme rigueur. Donc, il faut que tous les jours, on soit motivé pour le faire, quoi.
Alors, nous en arrivons à Charlier. Vous rencontrez Charlier par Joubert ?
Non, en fait, par Jean Giraud, le dessinateur de Blueberry. Là aussi, c'est une... le hasard.
Là aussi, un ponte de la bande dessinée.
Moi, je rencontre Joubert, qui était mon idole d'adolescence. Après, je rencontre Jean Giraud dans une exposition dans le Quartier Latin. Alors, c'était mon idole en bande dessinée. Et il me présente Jean-Michel Charlier, qui était mon idole en tant que scénariste. Donc là, en l'espace de quelques années, j'ai rencontré les trois personnes que j'adorais le plus. C'est un rêve, quoi. Et Giraud m'a présenté à Jean-Michel Charlier, qui cherchait à l'époque quelqu'un pour reprendre la série Barbe Rouge, puisque J.G., qui avait succédé à Hubinon, qui venait de décéder, donc Hubinon, qui avait créé Barbe Rouge, était mort. J.G. lui avait succédé, était mort à son tour. Et donc, Charlier m'a proposé de reprendre la série Barbe Rouge.
C'était pas rien, parce que J.G., on se souvient de Stanley, on se souvient de Don Bosco. C'est une génération de la bande dessinée qui s'est peu à peu éteinte. Est-ce que vous avez justement le sentiment d'avoir repris une sorte de flambeau ?
À l'époque, je ne l'ai pas vécu comme ça. J'étais vraiment très ingénu. On m'aurait proposé de reprendre Buck Danny ou Blueberry, j'aurais dit non. Ce n'était pas trop mon univers. Barbe Rouge, je n'étais pas forcément un fan de la série. Je n'étais pas très fan de Hubinon dans Barbe Rouge. J'étais fan de lui dans Buck Danny. Il avait un dessin un peu raide pour Barbe Rouge. D'ailleurs, Charlet m'a dit d'aller plutôt vers le dessin de Jean Giraud, un peu plus baroque, un peu plus noir, avec des hachoirages, etc. Un truc plus réaliste. Et ça me plaisait bien. Et dessiner des bateaux en bois, dessiner des trucs un peu rigides ou des avions, j'aurais eu du mal, quoi.
Alors, justement, vous m'amenez à ma question suivante. Vous travaillez sur Barbe Rouge, sur deux tomes, Trafiquant de bois d'ébène et Les révoltés de la Jamaïque. Nous sommes dans le domaine maritime. Est-ce que vous aviez une prédisposition, un amour ? Vous parliez de votre amour de l'histoire tout à l'heure. Est-ce que vous aimiez le domaine maritime, les trois mâts ?
Absolument pas. J'avais dû dessiner deux bateaux dans ma vie avant de reprendre Barbe Rouge. Et c'est ce qui fait que j'étais complètement, complètement naïf. Enfin, là-dedans, je suis parti un peu à l'aventure. Et je me suis retrouvé tout d'un coup dans un domaine que je ne connaissais pas. Alors, j'habitais chez Pierre Joubert. Donc, lui, il avait une documentation de bateaux. C'était un peintre de marine. Enfin, il n'était pas peintre officiel de la marine, mais il avait fait énormément de dessins de marine de manière extraordinaire. Il avait travaillé pour le musée de la marine. Mais sa documentation était une documentation d'illustrateur. C'est-à-dire, un illustrateur, il fait un, deux dessins sur un bateau, puis c'est tout. En bande dessinée, on doit tout savoir sur un bateau, sur une voiture, sur n'importe quoi. On le dessine sous tous les angles. Donc, la documentation était un peu faible. Alors, je suis allé au musée de la marine. Et là, je suis tombé sur les livres de Jean Boudriau, l'archéologue naval Jean Boudriau. Donc, cet ouvrage, c'était le vaisseau de 74 canons qu'avait utilisé Bourgeon pour les passagers du vent. Et là, alors là, du coup, quand j'ai commencé à feuilleter ça, là, je suis tombé amoureux de la mer. Parce que, enfin, de cet univers des bateaux anciens, c'est tellement riche, tellement extraordinaire. Après, bon, j'ai regardé les tableaux, les gravures. Et au fur et à mesure que je travaille dans ce domaine-là, j'ai trouvé un univers d'une richesse infinie. Et en plus, qui me faisait rêver. Au départ, je n'étais pas forcément plus rêveur que n'importe qui d'autre devant un tel domaine. Mais je me suis rendu compte que plein de gens aiment voir des bateaux, les voir dessiner. Les dessins de marine, c'est quand même c'est une partie de l'histoire de l'art, quoi. Les peintres de marine. Bon, c'est plus connu dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux Pays-Bas qu'en France. Mais malgré tout, c'est un domaine à lui seul. Et là, je suis tombé dedans, quoi.
La série Barbe Rouge, quel est l'élément qui va provoquer le fait que vous arrêtiez ?
Mais en fait, la mort de Charlier, tout simplement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai repris Barbe Rouge, j'ai amené cette série vers le côté historique. C'est-à-dire que je l'ai située historiquement, j'ai essayé de trouver les documents historiques que j'avais à l'époque. Donc, je fais deux albums avec Charlier. Et comme il était extrêmement pris par ses émissions de télévision, par toutes ses différentes bandes dessinées, je lui ai proposé de faire un synopsis d'une nouvelle histoire de Barbe Rouge et de faire la documentation. Ce qui m'arrangeait parce qu'en fait, il travaillait en feuilletonniste, c'est-à-dire que je recevais le scénario compte-gouttes. Deux pages, une demi-page. Ça m'est arrivé certaines années d'avoir que sept pages de scénario. Hein, donc, je faisais autre chose d'un côté. Et donc, moi, ça m'arrangeait. Donc, je lui ai proposé ce synopsis-là. Il l'a lu, ça l'a intéressé. Et il m'a dit, bon, je vais faire le découpage et le dialogue. Et en fait, deux mois après, il décédait. Mais avant de mourir, il avait demandé à sa veuve, Christine, donc enfin, son épouse, que je reprenne Barbe Rouge, moi tout seul, scénariste et dessinateur. Et donc, j'ai adapté ce synopsis-là pour faire un nouvel album de Barbe Rouge. Mais il y avait tellement d'histoires avec les différents héritiers, les éditeurs qui se battaient, que je ne voulais pas travailler dans ces conditions-là. Moi, ce qui me plaisait dans travailler Barbe Rouge, c'était de travailler avec Charlier. Ouais. Avec un grand bonhomme, quelqu'un que j'admirais. C'était qui me reprendre une série qui n'était pas à moi, avec tous les gens dans mon dos, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai donc décidé d'arrêter et de transformer ce synopsis, ce scénario, pour en faire une nouvelle série. Et c'est comme ça que j'ai créé Les Parieurs, complètement en bricolant. C'était vraiment du bricolage au départ.
Alors, au début, vous êtes dessinateur et peu à peu émerge l'idée que, au fond, vous voulez raconter vos propres histoires.
Mais c'est-à-dire que pendant que je faisais Barbe Rouge, comme je vous disais, des fois, je n'avais pas de scénario du tout. J'étais un peu coincé. Et quand j'avais fait mon service militaire, j'avais inventé des petites histoires. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire un petit scénario. Et à l'époque, j'avais rencontré un jeune auteur, Jean-Charles Crène, qui avait le même âge que moi, et qui venait montrer ses dessins. Donc je l'ai un peu formé, j'étais un peu plus avancé dans le métier que lui. Et à un moment, il avait envie de faire une bande dessinée, il n'avait pas le temps de faire le scénario. Moi, j'avais un scénario d'une série médiévale, mais que je n'avais pas le temps de dessiner. Je lui ai proposé de faire ça. Et donc, en fait, je suis devenu scénariste d'une série médiévale, donc Les Aigles décapités, avec les dessins de Crène. Et c'est comme ça que j'ai appris ce métier de scénariste. Si l'avantage de travailler avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il avait du recul sur mon travail. S'il n'avait pas compris mon scénario, si le scénario n'avait pas été agréable à lire, etc., je n'aurais pas continué dans le scénario. Là, j'ai donc d'abord été dessinateur. Ensuite, dessinateur et coloriste sur le deuxième Marbre Rouge. Ensuite, scénariste, uniquement scénariste. Et avec L'Épervier, je suis devenu auteur complet.
Donc, on peut dire que L'Épervier, c'est vraiment une œuvre de maturité ?
De maturité, enfin, disons que j'ai appris mon métier avant, puis j'ai essayé un peu plus de le maîtriser avec L'Épervier.
Je reçois Patrice Pellerin, auteur, dessinateur et scénariste de la série L'Épervier, entre autres. L'Épervier, dont le tome 7, La Mission, vient de sortir chez Cadran. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois le scénariste et dessinateur Patrice Pellerin, auteur de bande dessinée, auteur de la fameuse série L'Épervier, dont le tome 7 vient de sortir, le tome 7 intitulé La Mission, chez l'éditeur Cadran. Alors, nous avons évoqué la naissance de Yann de Kermer. Yann de Kermer est donc le héros, c'est le nom que vous avez souhaité donner à L'Épervier. Comment, une question peut-être bête, mais comment trouve-t-on les noms de ces personnages? Est-ce qu'ils sont liés? Parce qu'on le sait que dans le monde de la bande dessinée, parfois on représente des personnages de son entourage. À un moment, vous représentez un prêtre et ce prêtre est un ami anticlérical. Est-ce que là, dans le choix des noms, il y a une logique, une intelligence ou, ma foi, c'est du hasard?
C'est un peu tout. C'est vrai qu'on fait comme tout le monde, on fait des listes de noms. On essaye. Au début, j'avais essayé Loïc. Mais c'était mon éditeur à l'époque était belge et il fallait qu'un nom qui sonne aussi bien en français qu'en néerlandais. Ça, c'était d'abord, c'était prévu pour l'éditeur Novedi, qui était mon éditeur de Barbe Rouge, ensuite pour Dupuis. Donc, ces éditeurs-là pensent tout de suite au marché néerlandais, néerlandophone, que ce soit pour les onomatopées ou pour les noms des personnages principaux. Et donc, après, j'ai essayé. Bon, Yann, ça sonnait bien. Et après, je ne sais pas pourquoi j'ai mis de Kermer, parce que c'est dans la presqu'île de Crozon. J'avais regardé une carte, en fait, hein, une carte ancienne, et puis j'avais trouvé des noms comme ça. Petit à petit, c'est comme ça. C'est vraiment là aussi du bricolage. Et au bout d'un moment, on a l'impression que c'est presque une évidence que le personnage est né comme ça de toute pièce. Et le surnom, par contre, L'Épervier, c'est venu d'un contrebandier de la presqu'île de Crozon qui se faisait appeler Ars Parfel, donc L'Épervier. Et je trouvais que le nom claquait bien. Mais ma série, au départ, devait s'appeler « Le Seigneur des Tempêtes ». C'était un peu grandiloquent. Et c'est mon éditeur de Dupuis qui m'a dit « Écoute, non, L'Épervier, c'est bien, c'est plus court, on ne peut pas le raccourcir et ça s'écrira en plus gros sur la couverture. »
Alors, les aventures de Yann de Kermer se décomposent en deux cycles. Un premier cycle qui se passe à la fois en Bretagne et en Guyane. Yann de Kermer donc, est un noble breton. Il est accusé d'un meurtre qu'il n'a évidemment pas commis et qu'il mène très loin, jusqu'à Cayenne et dans la forêt guyane. Alors, vous avez décomposé cette longue histoire, le premier cycle, en 6 tomes. Est-ce que vous saviez à l'avance, si je puis dire, que vous vous engagiez pour cette longue épopée de 6 tomes?
Absolument pas. Au départ, je crois que j'avais dû signer pour 2 albums. Et puis après, j'ai fait un peu plus. Mais je ne savais pas trop où j'allais. Le premier album a été construit en scénariste, comme Charlier, en fait. J'avais un synopsis bien détaillé de la page 1 à la page 46. J'inventais l'histoire au fur et à mesure. Et comme faisait Charlier. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas très pratique. 46 pages, c'est très court. Il faut bien calibrer son rythme. Si on s'allonge trop sur une séquence, il va vous manquer des pages à la fin. Donc j'ai pris maintenant l'habitude d'écrire systématiquement, entièrement, mon scénario avant de dessiner chaque album. Mais je savais pas du tout où j'allais. Hein. J'avais un fil directeur. Et après, je brode. Et je fais ça maintenant aussi pour la suite.
Oui, mais Pour le deuxième cycle, par exemple, qui vient d'être entamé avec le tome 7, La Mission, vous repartez sur 6 tomes ?
Je pense, oui. J'ai du mal à être court. J'ai toujours eu le goût des films à grand spectacle ou des romans un peu épiques et des choses comme ça. Donc, j'ai besoin qu'il y ait un peu de souffle. Faire une histoire courte, j'aurais un peu de mal. Et en plus, je fais une histoire avec des bateaux, beaucoup de personnages, des décors, des grands espaces, etc. Donc, du coup, ça rallonge un petit peu. Et là, je suis effectivement parti sur un cycle à peu près de la même longueur, oui, je pense.
Avec Barbe Rouge, nous le disions tout à l'heure, nous parlions de documentation. Et si on achète chez Dargo les compilations des Barbes Rouges, on peut lire que l'histoire, c'est Charlie qui écrit, l'histoire est basée sur une énorme documentation dans un contexte historique authentique. Et avec Yann de Kermer, donc avec la série L'Épervier, il y a un gros travail de recherche. Vous faites à la fois des recherches pour les dessins et pour le scénario. Vous avez une méthode de travail particulière,
C'est l'avantage d'être un auteur complet, c'est qu'on travaille pour les deux choses à la fois. C'est-à-dire que des fois, ça va être un document graphique qu'on va trouver, une représentation d'un lieu quelconque, d'un bâtiment, une vue de ville ou n'importe quoi, qui va vous donner une idée de séquence. Donc, ça va vous donner une idée de scénario. Des fois, ce sont des textes ou le comportement des personnages qui vont faire en sorte que vous allez faire avancer l'histoire de telle ou telle façon. Mais c'est vrai qu'à la base, comme je suis avant tout dessinateur au départ, je conçois d'abord visuellement mes albums. J'ai envie de dessiner tel ou tel lieu. Ce sont les lieux qui me dictent un peu les scénarios. Dans le premier cycle, j'avais envie de dessiner la presqu'île de Crozon, Brest, etc. Donc je continue dans le suivant. Et la Guyane, parce que j'étais tombé amoureux du pays, donc j'ai eu envie de dessiner le lieu.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et maintenant, c'est Versailles. Donc, et suivant les lieux qu'on choisit, l'histoire ne va pas être la même.
Oui.
Et donc, c'est important de savoir, est-ce que là, je me suis posé la question pour le début du deuxième cycle, est-ce que mon personnage va aller à Versailles ou pas ? À un moment, si Versailles, automatiquement, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être le roi, que c'est des décors compliqués. Enfin voilà, donc ça génère plein de choses. Donc il faut le savoir dès le départ.
Mais alors, vous vous lancez dans une recherche, vous achetez des livres, vous allez en bibliothèque ?
Alors moi, je ne suis pas historien de formation, même si j'espère l'être de construction. Je vais au plus près, c'est-à-dire je vais d'abord dans ma bibliothèque, j'ai une énorme bibliothèque de plusieurs milliers de livres. Maintenant, je peux aller sur Internet. C'est aussi, ça permet vraiment de dégrossir le sujet, de trouver éventuellement des sujets. Je vais après en librairie, j'achète des livres, ou en bibliothèque, tout près de chez moi. Donc, je vais du plus près au plus loin. Et après, si je ne trouve pas, je peux éventuellement aller dans une bibliothèque spécialisée, en archives, etc. Mais je ne fais pas comme historien qui va aller tout de suite en archives. Parce que je me suis rendu compte que très souvent, il y a énormément de choses qui sont publiées et qui sont d'un accès très facile. Pourquoi aller s'embêter à passer des heures, à aller en archives, demander un document qui est à côté, au coin de votre rue, dans un bouquin, qui sera plus facile à avoir, etc. Donc, j'ai cette façon de faire. En fait, je recoupe la formation de partout. Je n'ai pas une formation, je vous dis, universitaire. Donc, je fais feu de tout bois, quoi.
Alors, entre les deux cycles, le premier cycle donc, qui comprend 6 tomes et le nouveau cycle qui vient de commencer, il y a les archives secrètes, qui est une sorte de hors-série où on découvre l'histoire du héros, en tous les cas les faces cachées qui sont présentes dans le premier cycle et sur lesquelles vous apportez un éclairage. Et il y a deux noms qui reviennent régulièrement, un que vous avez déjà cité, Alain Boulaire et Jean Boudriau. Donc Jean Boudriau, vous l'avez cité, ce sont des personnages qui vous ont apporté sur le plan historique énormément.
Alors Jean Boudriau, c'est évident. C'est-à-dire que sans le travail de Jean Boudriau, il n'y aurait pas l'Épervier. De la même façon que sans Jean Boudriau, il n'y aurait pas les Passagers du Vent. Parce que c'est donc le plus grand des archéologues navals. Bon, il a maintenant 83 ans. Il est toujours aussi vert et aussi fort, enfin aussi vif dans sa tête. Et il a reconstitué la marine ancienne en dessin, en plan. C'est-à-dire, et ça a permis donc l'essor au niveau mondial du modélisme, un retour du modélisme d'arsenal de bateaux du 17e, 18e siècle. C'est absolument extraordinaire. C'est une vraie mine. Ça me permet, moi, quand je dessine un bateau, j'ai tous les plans sous les yeux. Je peux les refaire en trois dimensions. Il y a donc des maquettes aussi qui existent à partir de ces plans, qui me permettent de les voir encore mieux. Et on va même sans doute construire des navires à l'échelle 1 à partir de ces plans. Donc, c'est extraordinaire. Et Alain Boulaire, c'est un historien de la région de Brest qui avait fait une thèse sur Brest. Et donc, ça m'a permis de travailler avec ses livres. Et après, je l'ai rencontré, c'est devenu un ami. Donc, il me sert de conseiller historique quand je sèche. Mais souvent, je le colle parce que
Vous commencez à connaître votre sujet.
Voilà, je connais mon sujet. Et en plus, les historiens ne connaissent pas forcément les sources graphiques parce qu'elles sont plus rares de toute manière. Et on a vite fait le tour d'un sujet. Il y a certains domaines où j'ai absolument tous les documents graphiques qui existent sur un lieu. Il n'y en a pas beaucoup. Brest, en 1742, il n'y a pas de dessin. Il y a des plans. Il y a des choses comme ça, des relevés, des plans, etc. Mais moi, je n'ai pas trouvé de dessin d'époque parce que les frères Ozanne qui ont dessiné Brest étaient trop jeunes. Ils ont dessiné Brest en partie 1750, 60, 70, 80.
Alors, une autre source d'inspiration, vous la citez d'ailleurs, je crois, dans l'avant-propos de l'édition intégrale, Vernet, Lancret, Chardin. Est-ce que les peintres de l'époque constituent pour vous également une source d'inspiration?
Évidemment, parce qu'on n'a pas de photos, donc le seul moyen de se représenter les costumes de l'époque, sauf si on a la chance d'avoir éventuellement des costumes réels. Mais par exemple, je suis allé voir l'exposition Face de cour à Versailles, qui est absolument magnifique sur les costumes de cour. Il n'y a pas de costumes français, on n'en a plus. On n'a que des costumes étrangers. Donc, il nous manque plein de choses. Les seuls moyens de se représenter une époque, ce sont des peintres, des gravures, des petits maîtres. Alors, les petits maîtres, parce que des gens comme les Ozanne, ou parce qu'ils sont un peu moins connus que les grands peintres de cour qui représentaient les rois de manière très allégorique. Moi, je rêverais d'avoir une peinture de Louis XV dans son bureau représentée de manière réaliste. Mais il y aura toujours une colonne, une draperie, un rideau qui pendouille, etc. Ils n'arrivent pas à faire des peintures réaliste, quoi. Et ça manque vraiment. Or, les petits maîtres le faisaient des fois. Ils faisaient des choses beaucoup plus crédibles. Et moi, j'ai besoin de toutes les sources documentaires. Et pour reconstituer un lieu, j'ai besoin d'aller sur place voir le lieu, ce qui existe encore, retrouver éventuellement les plans d'époque pour resituer à l'époque, voir ce qui a changé, savoir ce qu'il y a dedans, les meubles, etc. Enfin, les couleurs, tout, quoi. Et comment on était habillé, et comment on se tenait, comment on se parlait. Enfin, voilà, c'est infini. Mais c'est ça qui est passionnant.
Est-ce que, en travaillant sur cette émission, je me suis aperçu que vous étiez amené parfois à revoir votre représentation d'un bateau ou bien d'un fort en fonction justement de cette information historique?
Tout le temps, en fait. Quand j'ai commencé l'épervier, d'abord, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas encore. Par exemple, l'épervier possède un bateau qui s'appelle la Méduse, qui est une frégate. Et à l'époque, j'avais des documentations très fragmentaires. Et il se trouve que Jean Boudriau, pendant que je faisais le deuxième tome, a sorti une monographie sur une frégate qui s'appelle la Renommée. C'est exactement le bateau que je voulais pour l'épervier, construit à Bretz, etc. Donc maintenant, j'ai exactement le plan du bateau. C'est pareil, il y a des documents. J'avais dessiné dans le premier tome un quai en pierre au pied du château de Brest. Or, j'ai vu après qu'il datait de 1780 et mon histoire était en 1740. Donc, dans l'album suivant, j'ai détruit le quai. Au fur et à mesure, en fait, j'améliore ma documentation. Donc, mes personnages sont habillés différemment, les armes ne sont plus les mêmes, le bateau de l'épervier a changé 20 fois. Mais à chaque fois, c'est de plus en plus précis, de plus en plus juste. Mon regard devient de plus en plus acéré parce que j'ai plus de connaissances. Le port de Brest que je dessine est infiniment plus précis que celui que j'ai dessiné dans les premiers albums. Mais au lieu de faire comme certains de mes collègues, des fois, je me suis un peu bagarré là-dessus. À partir du moment où ils l'ont dessiné une fois comme ça, ils le dessineront toujours comme ça. Résultat, ce sera toujours mal dessiné ou sera toujours faux, entre guillemets. Et moi, j'essaye au fur et à mesure d'améliorer ma documentation.
Ce qu'il y a d'extraordinaire à vous écouter, c'est qu'il y a un réel travail. Alors, je ne dis pas que vos confrères ne travaillent pas. Est-ce que, parce que cela prend du temps, et notamment le monde maritime est tellement difficile à représenter, est-ce la raison pour laquelle il n'y a quasiment aucun dessinateur en dehors de Bourgeon dont vous parliez tout à l'heure?
Bien sûr, on est, avec François Bourgeon, on est deux allumés de ce côté-là. Bon, il y a André Juillard aussi, mais dans un autre genre. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et donc, qui dit temps, dit argent aussi. Parce qu'en bande dessinée, on est payé à la page. Que vous mettiez une journée à faire une page ou 15 jours, ce sera le même prix. Donc, on n'est pas payé au temps de travail. Sinon, je serais millionnaire. Non, c'est pour ça. Non, mais c'est un réel impact. En fait, on est nos propres financiers, nos propres producteurs. Donc, il faut vraiment aimer ça. Et moi, je suis condamné à ce que mes séries se vendent. Si elles ne se vendaient pas, l'épervier s'arrêterait. Ou alors, l'histoire se passerait dans une cabane sur une plage déserte. C'est parce que ça a un réel coût. Tout l'investissement d'acheter des livres, d'aller sur place, faire des photos. Tout ça, c'est moi qui le finance. Je veux dire, comme de la même façon que Bourgeon le fait, en allant les heures passer en archives, etc. C'est notre propre financement. Il faut qu'on y trouve du plaisir aussi. Mais en même temps, c'est notre métier. Donc, il faut aussi que ça rapporte à un moment. Et un jeune dessinateur ne peut pas se permettre ça.
Alors, votre style a bien naturellement évolué, hein, de Barbe Rouge, de vos premières rencontres avec Pierre Joubert à aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur vos travaux passés ?
J'ai un peu de mal à regarder. Je regarde très peu derrière moi, en fait. Je me sers de mon travail passé pour voir comment je peux l'améliorer, en fait. Ce que j'ai réussi à faire m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais réussir le prochain dessin, le prochain album, etc. Un album fini, je m'en souviens absolument plus. quand j'ai fini une page, je ne sais absolument plus comment je l'ai dessinée. Et c'est assez étonnant. Je suis toujours devant, en fait.
Une de vos particularités, c'est que vous tenez absolument à apporter la couleur, alors que dans le monde de la bande dessinée, les dessinateurs, normalement, l'éditeur met à disposition un coloriste.
C'est pour gagner un peu de temps aussi. Ça fait gagner peut-être 3 mois sur un album. Et puis, il y a des dessinateurs qui n'aiment pas mettre la couleur, d'autres qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas. Il y a beaucoup de dessinateurs qui sont daltoniens. Moi, j'ai 4 frères. Ils sont tous daltoniens, donc j'ai échappé à cette malédiction, mais qui m'aurait bien embêté. Mais un des grands dessinateurs, Uderzo, est daltonien, donc il ne fait pas les couleurs de ses albums. C'est un autre travail. Scénario, dessin, couleur. Bon, dessin et couleur, ça se rapproche beaucoup. On peut concevoir les dessins couleurs, mais c'est des domaines qu'on peut effectivement compartimenter.
On a parlé de votre style, on n'a pas parlé de vos influences. Est-ce que vous vous situez dans la lignée, en dehors bien évidemment des dessinateurs que vous avez pu rencontrer comme Joubert, même si votre style est différent de celui de Joubert, vous vous situez dans une filiation particulière ? Vous avez une admiration pour
J'ai une admiration multiple et énorme. J'ai besoin d'admirer. Moi, j'adore admirer le dessin des autres. Je gagnerais du temps si je passais moins de temps à regarder les dessins des autres. J'adore admirer les dessins des autres, et ce qui fait que j'ai des multiples influences. Mais pour moi, je ne fais pas de différenciation entre un illustrateur, un peintre du passé, etc. Pour moi, c'est pareil. Que ce soit Chardin, Joubert, Frazetta, Giraud, tout ça, je les mets. Pour moi, c'est pareil. Ils font le même travail, le même boulot, avec des moyens différents, des époques différentes, etc. Ce qui fait que dans mon panthéon, ils sont un peu... Voilà. Moi, j'ai une table à dessin, il y a un mur d'images devant, donc il y a des sculptures, il y a il y a de tout, des photos de films, n'importe quoi. Je me sers de tout. Et je ne cherche pas à savoir... Je suis un dessinateur réaliste, c'est vrai, je ne fais pas des gros nez. Historique, automatiquement, voilà, ça sélectionne déjà un petit peu. Je fais en plus des bateaux, enfin voilà, un peu de tout. Mais je ne cherche pas trop à me situer. J'essaye à la limite même presque de ne pas avoir trop de style, parce que je fais de la bande dessinée, que pour moi, le dessinateur de BD doit un petit peu s'effacer devant ses personnages. C'est une des caractéristiques par rapport à l'illustration, à la peinture, où l'auteur se met en avant. Moi, j'essaye un petit peu de m'effacer, et je suis ravi quand parce que la plupart du temps, c'est ça, les lecteurs en dédicace vous parlent de vos personnages comme s'ils étaient réels. Ils ont oublié qu'ils étaient dessinés. Et là, pour moi, c'est un vrai compliment. Ça veut dire que je ne me suis pas mis en avant. J'ai mis mes personnages en avant. Je les ai fait vivre. Ils bougent, ils ont une voix. Ils jouent bien, quoi. C'est ça que j'essaye de faire. C'est la grosse différence entre la BD et l'illustration ou la peinture classique, quoi.
Alors, vous parlez du monde des hommes. Il y a aussi la nature, et l'expression la plus belle de cette nature dans votre œuvre, c'est la Guyane. Pourquoi avoir choisi un pays, j'allais dire, si hostile ?
C'est vraiment là aussi, c'est le hasard. C'est pour ça que j'adore le hasard. On peut dire s'il est miraculeux ou pas, mais c'est le hasard. J'ai été invité pour faire une petite exposition sur la bande dessinée. À l'époque, je faisais Barbe Rouge. Et ils avaient invité les organisateurs, les gens qui voulaient faire venir les auteurs, avaient invité plein d'auteurs. Et personne ne voulait aller en Guyane, justement. L'image hostile, pays avec des petites bêtes et tout ça. Et moi, on me téléphone, on m'appelle et je dis oui, bien sûr. Ça me paraissait tellement évident. Enfin, on a un métier qui est tellement statique, tellement peu aventureux à notre table à dessin, qu'aller un tout petit peu à l'aventure en Guyane, ça me paraissait évident. Et il se trouve que la personne qui m'invitait, Yannick Leroux, venait de faire les premières fouilles archéologiques en Guyane. Donc moi, c'était en 1987 et il venait de fouiller une poterie de 1680. Et donc, je l'ai accompagné sur le terrain. Moi, j'avais fait un peu de fouilles archéologiques quand j'étais jeune. Et on a vraiment copiné. Et j'ai vu qu'il y avait un endroit qui était graphiquement beau, mais qui avait aussi une histoire. Et qu'il y avait éventuellement des archives. Parce que si je trouve un endroit où il n'y a aucune archive ou pas d'histoire, je ne peux pas trop l'utiliser. Là, je suis tombé en plus sur la bonne personne et on est devenus amis. Je suis allé 8 fois en Guyane. Enfin voilà, je continue à travailler d'ailleurs pour eux. Et ça m'a donné envie d'utiliser cet endroit-là que je n'aurais jamais imaginé autrement pour le mettre dans l'histoire.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans votre regard, vous parliez tout à l'heure de votre regard qui est peut-être plus aiguisé que celui des historiens qui travaillent beaucoup sur le texte. Là, vous travaillez sur l'image, sur la représentation. Et alors que vous étiez avec Yannick Leroux, il y a une anecdote extraordinaire. Vous imaginez qu'il y a une sortie, un dallage près d'un endroit. Et effectivement, parce que c'était logique, parce que c'était, j'allais dire, naturel, Yannick Leroux retrouve ce dallage.
Oui, à l'époque, quand moi, je faisais mes crayonnés, quand j'ai reconstitué l'habitation de Loyola, je suis envoyé par fax. Et après, il allait voir sur le terrain, faisait des mesures, etc. Et effectivement, ce passage me paraissait évident dans la reconstitution. Il me dit non, mais nous, on a... On, Les relevés de fouilles ne le montraient pas, mais moi, ça me paraissait évident. C'est bizarre que les personnages soient obligés de faire un grand tour pour aller derrière, alors que ça paraissait tellement... Et effectivement, il y avait un dallage là. Mais de la même façon, on cherchait des habitations 18e. Il n'y en a plus en Guyane, quasiment pas. Et par contre, moi, j'essayais... Il y avait des maisons qui me paraissaient anciennes, même si elles dataient des années 50 ou 60. Alors, j'ai toujours un mètre avec moi, un mètre ruban, et je commençais à mesurer avec Yannick. Et puis, en fait, je dis, tiens, ça faisait 1,90 m, 2 mètres. Tiens, on dirait une toise. Puis on mesure encore une autre toise, une double toise. Et en fait, c'était des bâtiments du 18e qui avaient été construits là au 18e. Donc et comme c'est des bâtiments en bois, tous les 10 ans, à peu près, on les refait. Mais on fait comme au Japon, c'est-à-dire à l'identique. Même fondation, on remet les bâtiments. Donc les formes sont exactement d'époque. Les peintures étaient 18e, même si elles étaient fabriquées dans les années 50. C'était des modèles 18e qu'on trouve encore en Nouvelle-France. Et donc voilà, sous les yeux, il y avait des bâtiments du 18e. Et donc après, ils ont fait des... On a trouvé ça ensemble. Après, ils ont fait des photos, ils ont fait du collectage, quoi. Mais voilà, c'est...
Le dessin, dites-vous, ne trompe pas.
Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, disait Napoléon, Bonaparte qui s'y connaissait. Et non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'un historien qui ne sait pas, ne va pas parler. Ne va pas dire, il ne sait pas comment était telle partie de la pièce, il n'en parlera pas. Moi, je dois montrer les quatre côtés d'une pièce. Je dois montrer tout l'habillement d'un personnage. Donc, je dois savoir comment il est habillé de la tête aux pieds, comment sont exactement les décors, etc. Le dessinateur doit tout montrer. Et ce qui gêne parfois les historiens, parce que des fois, eux, ils ne savent pas. Donc, on fait de la reconstitution. Et ça, certains n'aiment pas.
Patrice Pellerin, nous nous retrouvons dans un instant. À la redécouverte du théâtre musical. Écoutez Christophe Mirambeau narrer les débuts de la comédie musicale avec Sacha Guitry, expliquer les talents de librettiste d'Albert Villemetz, revenir sur les inspirations de Charles Trenet en 1936, ou encore présenter l'opéra comique Véronique d'André Messager aux côtés du chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi. À Broadway ou au Châtelet, rien n'échappe à Christophe Mirambeau, qui exhume des partitions fameuses et oubliées et vous fait entendre des extraits musicaux inédits. Ces émissions sont en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée donc à la bande dessinée et à l'histoire. Je reçois Patrice Pellerin, dessinateur et scénariste de la série L'Épervier, dont le dernier tome, La Mission, vient de sortir aux éditions Cadran. Alors nous avons beaucoup parlé, Patrice Pellerin, du dessin. Venons-en, si vous voulez bien, au scénario et au-delà, au dialogue. Vous disiez tout à l'heure sur le scénario que vous le prépariez avant, même si vous ne voyez pas forcément à long terme et vous ne connaissez pas la fin du deuxième cycle que vous venez de commencer. Qu'en est-il des dialogues ? Est-ce que vous vous transposez au XVIIIe siècle et est-ce que vous trouvez une tournure particulière ? Vous devez trouver une tournure particulière ou au contraire, vous cherchez un équilibre entre ce qui serait un dialogue contemporain et un dialogue de l'époque ?
On ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas faire parler mes personnages comme ils parlaient au XVIIIe. En plus, je ne sais pas comment ils parlaient au XVIIIe. Moi, quand j'ai commencé la série, j'ai essayé de trouver un langage XVIIIe. Je suis allé voir Marivaux, puisque c'est le contemporain de L'Épervier, donc les pièces de théâtre. Mais en fait, je ne peux pas faire parler mes personnages comme ils parlent dans les pièces de Marivaux, parce que c'est déjà du parler de cour. C'était du théâtre fait pour la cour. Quand ils représentent des paysans, ils parlent comme les gens de la cour pensaient que parler les paysans, enfin voilà. Et même le langage de notre époque est beaucoup plus rapide que le langage du 18e. Quand on voit déjà comment on parlait avant la dernière guerre mondiale, enfin la dernière guerre, et comment on parle maintenant, il suffit d'écouter les hommes politiques ou les discours, on a des archives, on parle plus du tout pareil. Le subjonctif, on l'utilise plus, enfin on fait des phrases très courtes et tout ça. Et moi j'ai des bulles, je veux dire, j'ai pas tant que ça de place dans mes bulles. Je dois donc avoir un langage rapide, des mots qui soient imagés, mais effectivement, je dois aussi faire parler mes personnages un petit peu suivant leur rang. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à reconstituer. En plus, dans le dernier album, je représente Louis XV, des personnages historiques, le comte de Maurepas. Comment parlaient ces gens-là ? Comment ils se parlaient l'un avec l'autre ? Comment ils se tenaient ? Ça, on ne sait pas vraiment. Alors, je suis obligé, dans les représentations dessinées, on ne le sait pas. J'ai éventuellement les textes qui me donnent des indications, mais ce n'est pas facile. Ça, c'est donc une reconstitution comme on peut, quoi.
Alors justement, vous avez écrit ou dit plutôt, ce qui compte c'est la narration, la façon dont on raconte les choses et sur quel rythme. Le rythme est très important dans les dialogues, dans le découpage des cadres. Est-ce que le cinéma, vous parliez de posture tout à l'heure, est-ce que le cinéma vous apporte quelque chose ou au contraire vous...
Bien sûr. Là encore, parce que le cinéma souffre de clichés souvent.
Oui, c'est un peu le problème. Des films historiques, entre autres. Mais ça, c'est une vraie difficulté, encore une fois. Moi, ça m'aide, le cinéma, évidemment. Ce sont des arts cousins, la bande dessinée et le cinéma. Ils sont nés en même temps. Ils se sont piqués les choses l'un l'autre. Le nombre de cinéastes qui utilisent la bande dessinée et inversement. On regarde beaucoup de films, on est nourri de tout ça. Donc, on ne s'en rend même pas compte. Mais de la même façon que je suis influencé par les romans, la littérature, je suis influencé par l'image et le cinéma. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème que je donne toujours comme exemple. Admettons qu'il n'y ait pas le cinéma, les photos, etc., et que je doive représenter le président Sarkozy uniquement à partir de son portrait officiel. Comment est-ce que je pourrais le représenter si je n'ai pas à côté des gens qui me disent « mais non, il est beaucoup plus vif que ce qui paraît sur son portrait, quoi. » Et comment était vraiment Louis XV ? Alors, apparemment, c'était quelqu'un de très posé. Il ressemblait plutôt à la reine d'Angleterre ou à la cour d'Angleterre, des gens très, très, très flegmatiques, enfin, ou tout ça, très nobles et tout ça. Hein, des gens qui ont été éduqués comme ça, à avoir une façon de se tenir. Donc, ça, il faut le représenter. Et c'est vrai, quand on voit bon, le film de Sofia Coppola, par exemple, représentant Louis XV, enfin, bon, c'est vrai que ça choque un peu, quoi. Mais bon, voilà. La difficulté, c'est ça. Entre autres, quand on représente des personnages historiques, retrouver leur réalité, quoi.
Alors, nous en venons au tome 7, donc la mission L'Épervier, qui se passe en partie en Bretagne et en partie à Versailles. Pourquoi avoir choisi Versailles ? Parce que vous aimez le lieu. Tout à l'heure, vous disiez faire des choix, notamment par rapport à votre regard, si je puis dire, géographique.
C'est un peu le cas. En plus, il y a aussi un côté stratégique. C'est-à-dire que dans les albums précédents, j'avais fait trois albums. Dans le premier cycle, j'avais fait trois albums en Bretagne, un album en mer et deux albums en Guyane. Et à chaque fois, par exemple, les deux albums en Guyane, pendant deux albums, mon personnage était. Enfin, il y avait de la forêt, de la mangrove, etc. On était dans un univers un peu clos qui se ressemblait. Et là, je me dis, bon, j'envoie mes personnages au Canada, en hiver. Je vais avoir pendant combien ? Six albums, de la neige, des épinettes, etc. Je risque de me lasser un petit peu. J'avais une partie en Bretagne, bon, ok, mais c'est un côté des fois un peu rustique. Alors, je me disais, il faut quand même trouver un moyen de contrebalancer ce côté un peu rustique par quelque chose de beaucoup plus clinquant. Et Versailles, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, bon, j'envoie mon personnage à Versailles, ce qui fait que dans le cycle prochain, il y aura systématiquement dans chaque album le Canada, la Bretagne et Versailles, avec des degrés divers. Donc là, on a eu pas mal de pages à Versailles dans le tome 7, il y en aura peut-être un peu moins dans le suivant. Mais voilà, à chaque fois, il y aura des lieux variés, ça m'évite, moi, de m'ennuyer et peut-être d'ennuyer le lecteur.
Alors justement, sans dévoiler ce qui va se passer à l'avenir, donc les prochaines bandes dessinées seront à la fois sur ces trois lieux, alors que dans le premier cycle, on suivait le héros.
Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et dans le prochain, je me suis embarqué dans un truc compliqué, parce que en fait, le problème, c'est que j'ai une partie des personnages qui va être en France et l'autre partie qui sera au Canada, sans moyen de communiquer. Parce que là aussi, la difficulté de la bande dessinée historique, c'est de replacer le lecteur dans un contexte qui n'est plus du tout le même et qui ne connaît, avec une façon de vivre qui n'est plus du tout la même. Entre autres, pour les jeunes générations. Les anciens, ils savent encore, moi je vais en Bretagne, ma grand-mère elle a 101 ans, quand je lui parle de s'éclairer à la lampe, elle sait ce que c'est, hein, ou de travailler au bord de la fenêtre, elle sait ce que c'est, sans lumière. Mais à des jeunes qui manipulent l'internet et tout ça, leur dire que voilà, le personnage y part, il fait 2 mois de traversée pour aller au Canada, il passe 6 mois parce qu'il est bloqué par la neige et qu'il met 2 mois pour revenir, donc pendant 10 mois, on ne sait pas ce qui lui arrive en France, les personnages qui sont en France, ses amis ne savent pas ce qui lui arrive. Voilà, c'est... il faut, et en même temps, donc avec une lenteur, une façon de vivre un peu lente, et en même temps, tout doit être rapide, parce que je suis dans un rythme de feuilleton. Donc, c'est un peu la gageure de ce genre de récit historique.
Alors là, vous avez choisi donc Maurepas et Louis XV, vous visez haut. Vous avez souhaité, au-delà de les postures dont on parlait tout à l'heure, vous avez souhaité, là encore, avoir un regard historique sur le royaume. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que dans les archives secrètes, votre ami historien Bouler parlait de la crise économique sur les chantiers de l'Atlantique, en fait.
Oui, 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 absolument.
Et vous reprenez cette idée exactement dans la bande dessinée. Donc, est-ce que pour Louis XV, vous avez une démarche identique ? Est-ce que vous allez l'inscrire, parce que nous ne sommes qu'au premier tome, dans une réalité historique plus importante ?
Absolument. C'est-à-dire que je vais. Le fait d'utiliser à peu près six albums pour représenter cette période-là, je vais pouvoir montrer Louis XV à ses différentes activités. Donc, que ce soit à la chasse, mais aussi au travail. Il y a plein de choses qu'on ne montre jamais dans les films. On les voit toujours en train de chasser ou en train de boire ou de discuter avec des amis. C'est un peu le côté un peu péjoratif de c'est l'histoire républicaine qui a noirci la monarchie pour voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et j'essaye pas de réhabiliter le moins du monde ce genre, mais j'essaye de montrer comment c'était, quoi, et comment était le conseil, les relations entre les personnages, montrer effectivement les différentes activités du roi à différentes périodes de sa vie, etc. Maurepas aussi, c'était un personnage très important pour la marine. Encore une fois, Louis XV n'était pas un roi qui connaissait la mer. Le seul roi qu'on a eu qui connaissait la mer, c'était Louis XVI. Mais donc, comme maintenant, nos chefs d'État ne sont pas du tout sensibles au côté maritime des choses. Ça n'a pas changé. Comme maintenant, les ports demandent des crédits sans autant de Maurepas. Les ports demandaient des crédits tout le temps, parce que c'était mal entretenu, les bateaux tombent, s'écroulaient, etc. Ça n'a pas changé. Et le roi rechignait à donner des crédits à la mer. Il préférait fortifier la terre. Enfin, il y a plein de choses qui sont semblables. Et effectivement, quand il n'y avait plus de crédits, ben on faisait plus de bateaux, ou on radoubait les vieux bateaux, on essayait de les rafistoler, etc. Comme l'histoire du Charles de Gaulle ou le Clemenceau. Enfin, on retrouve exactement les mêmes choses. Ça n'a pas bougé du tout.
Vous décrivez la cour de Versailles, c'est une cour de Versailles qui est, j'allais dire, décrite de manière un peu négative, ce système instauré par Louis XIV, un peu comme elle le fut représentée d'ailleurs dans le film de Lecomte, Ridicule, et votre héros étouffe à Versailles.
Mais mon héros étouffe à Versailles, mais c'est un héros un peu spécial, il a vécu en Guyane, mais en forêt, la forêt c'est étouffant aussi, mais j'essaye toujours de me mettre dans les pas de mon personnage, j'essaye de faire ressentir au lecteur et au personnage ce que moi éventuellement je ressens en allant à Versailles. J'adore cet endroit, mais c'est vrai que c'est extrêmement chargé, et si on imagine cet endroit chargé avec en plus une multitude de gens également chargés avec des robes tout ornées, etc. C'est des meubles, parce que maintenant l'image qu'on a de Versailles est un peu affadie par rapport à ce qu'elle était avant. C'était quand même, il y avait beaucoup plus de mobilier, beaucoup plus de tableaux, beaucoup plus d'objets d'art que maintenant. Et avec en plus plein de monde, des milliers de personnes, des valets qui couraient dans tous les sens, des gardes, etc., avec des uniformes chamarrés. Donc tout ça, ça donne beaucoup. Pour à la limite un petit provincial qui arrive, ça devait en jeter partout et être au bout d'un moment un peu étouffant. En plus, c'est un marin, donc il y a beaucoup de marins qui aiment bien le grand large aussi, qui s'ennuient vite au bout d'un moment quand ils sont à terre, quoi.
Vous avez passé combien de temps à Versailles ?
J'y suis allé plusieurs fois, donc j'ai suivi un peu les différents chantiers au fur et à mesure, et j'essaye d'aller voir à chaque fois des endroits un peu différents. Et puis maintenant, ce sera peut-être un peu plus facile. Maintenant, j'ai eu des contacts, ce sera plus facile d'aller aux archives directement ou d'accéder à certains endroits, quoi.
Il y a un petit clin d'œil entre le monde maritime et Versailles. Vous représentez des maquettes qui évoluent sur le bassin des Suisses.
Oui, exactement. Alors, il y en avait sur le bassin des Suisses et sur le Grand Canal. Depuis l'époque de Louis XIV, en fait, il y a eu des petits modèles de bateaux. Louis XIV et Louis XV, c'est quasiment les seuls bateaux qu'ils ont vus en vrai, en fait. Donc, c'est des tout petits bateaux. Je crois que Louis XIV est allé une seule fois au bord de la mer à Dunkerque. Ouais, ouais. Et puis Louis XV, il n'y a pas les beaucoup. Louis XVI aimait bien aller au bord de mer, par contre, apparemment. Et mais donc, effectivement, il y avait des bateaux en réduction. Autant Louis XIV, il y a même une galère qui avait été offerte par Venise. Enfin, il y avait plein de bateaux qui naviguaient. Et c'était des marins bretons. Souvent, les bateaux étaient fabriqués à l'extérieur, à Rochefort ou à Brest. Ils arrivaient en kit, donc en botte. Donc, on les remontait après sur place, à Versailles. Et c'était des marins bretons qui les utilisaient. C'est pour ça qu'ils les avaient surnommés des bugalets. Ça veut dire petit enfant en breton, quoi.
On est fasciné par la représentation, par le détail. Mes yeux se posent sur un des salons du roi. Il y a également, le salon de la victoire qui est représenté avec une partie de la cheminée, vaincu.
Et puis le cabinet du conseil sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Effectivement, oui, c'est le celui de la guerre.
Est-ce qu'il vous est arrivé un moment de pester dans la difficulté à ne pas représenter
quand j'étais dans les séquences du cabinet du conseil, en plus, il y a plusieurs pages au cabinet du conseil que j'ai essayé de reconstituer. C'est un cabinet qui était entièrement recouvert de miroirs avec une multitude d'objets d'art dessus, tout orné. Donc, ça se reflétait de partout. C'était de la chamarrure partout. Je m'éclatais les yeux à faire après la mise en couleur et tout ça. Mais c'était comme ça. Enfin, et du coup, en contraste, quand je mets des cases qui se passent au Canada, on est dans un autre univers, quoi. Je trouve ça amusant aussi. Ça donne un côté exotique. Voilà, j'essaye de trouver le côté toujours un peu exotique et original qui n'est pas représenté. Quand je représente à Paris un moulin à bateau, l'intérieur d'un moulin à bateau, parce que j'ai trouvé une planche de l'encyclopédie qui le montre, ça me permet de montrer une séquence. J'aurais pu montrer ça dans un endroit tout à fait banal, quoi.
Alors, il y a encore une fois la Bretagne. On voit le port de Brest, mais aussi le fort du Taureau, les manoirs bretons également. Nous arrivons peu à peu, Patrice Pellerin, au terme de cette émission. Je voudrais peut-être vous poser une dernière question. Est-ce qu'on ne se lasse pas sur une si longue histoire ? Vous avez travaillé très longuement sur le premier cycle. C'est 10 ans de travail, c'est bien ça ?
À peu près, oui.
10
oui.
ans de travail. Oui, oui. Vous êtes en train de nous annoncer que vous partez sur 6 tomes. Il vous en reste 5 pour le nouveau cycle, donc entre Versailles, Québec et Brest. Vous ne vous lassez pas de représenter cet univers du 18e ?
Justement, le seul moyen de ne pas me lasser, et c'est de changer de décor d'univers. Passer de la Guyane à Versailles, je peux vous dire que ce n'est pas du tout pareil. La doc n'est pas du tout la même. Et je dessine pas du tout de la même façon. J'utilise des règles que je n'utilisais pas en Guyane, enfin pour faire la forêt. Quand j'ai dessiné la forêt guyanaise, j'ai travaillé avec des botanistes de l'Orstorm. Et pour moi, c'est un moyen de ne pas m'ennuyer. Si je dessinais toujours les mêmes endroits, toujours le même château de Bresse, etc., c'est vrai que je m'embêterais au bout d'un moment. Et le lecteur le verrait aussi, le ressentirait. Donc pour moi, le seul moyen de continuer, c'est de changer de décor, de changer, de montrer d'autres personnages, etc.
Eh bien, merci beaucoup, Patrice Pellerin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre regard d'historien, puisque de mon point de vue, vous apportez à l'histoire par ce regard. Je rappelle les références du cycle de l'épervier. Donc, le premier cycle a été réédité dans les intégrales de Dupuis, le premier cycle. Et tout dernièrement, vous venez de publier le tome 7, La Mission, qui entame donc le deuxième cycle, l'épervier. Donc, Patrice Pellerin, chez l'éditeur Cadran. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.